Merci Anne Fauquemberg. On vous retrouve donc à 9h pour le prochain journal. Il est 8h12 sur France Culture. Bienvenue dans le secret des sources consacré cette semaine à la situation à Canal+. L'esprit Canal, grandeur et décadence ou les raisons du passage du clair à l'obscur.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouver une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources. Antoine Mercier.
Les élus du comité d'entreprise de Canal+ ont engagé la semaine dernière une procédure de droit d'alerte économique sur les finances et aussi sur la stratégie du groupe. Décision prise après les récentes déclarations du président du conseil de surveillance de Vivendi, maison mère de Canal+, Vincent Bolloré, qui évoquait devant les actionnaires du groupe le risque de faillite de la chaîne cryptée. Si les pertes continuent, disait-il, il y a un moment où il faudra couper le robinet. Et il posait la question, est-ce que ça vaut la peine de sauver Canal+? Avant d'y répondre lui-même, personnellement, je crois que oui, mais ça dépend quand même pour combien de temps. La crise ne date pas d'hier, elle semble toutefois s'aggraver précipitamment, concurrencée sur le front du sport, du cinéma, des séries par l'émergence de beIN Sport, Netflix et Altice, entre autres. Canal+ a enregistré pour la seule année 2015 plus de 400 000 résiliations d'abonnements, ce qui se traduit par une perte annuelle de 264 millions d'euros. C'est la quatrième perte consécutive et la direction estime que le déficit pourrait atteindre 400 millions d'euros cette année. Pourquoi donc l'esprit Canal+ a-t-il un temps régné sur le tout Paris médiatique? Pourquoi s'est-il aujourd'hui comme évanoui, ne laissant plus qu'un corps à la dérive, quelques naufragés? Que dit cette aventure télévisuelle, sa réussite comme son déclin sur notre époque et sur celle qui l'a précédée? Pour tenter de répondre à ces questions, on est aujourd'hui en compagnie de Bertrand Delay, documentariste spécialisé dans les sujets notamment sur la politique et les médias, auteur d'une enquête sur la guerre de la TNT et qui fut d'ailleurs un temps chroniqueur sur Canal+. Olivier Pourriol, écrivain qui participe à une saison 2011-2012 au Grand Journal, qui a d'ailleurs témoigné de cette expérience dans un livre publié en 2013, intitulé « On-Off Comédie ». Léo Cher, sociologue, producteur de télévision, écrivain, qui a conçu et développé ce projet Canal+. Léo Cher est en ligne avec nous. Alexandre Michelin, directeur général de Spicy.com. Alors, ça s'écrit S-P-I-C-2-E, Spicy.com, un site internet qui propose des documentaires, des reportages vidéo, qui fut donc de 2001 à 2003 le directeur des programmes et des services du groupe Canal+. Et puis Isabelle Vera-Masson, chroniqueuse du secret des sources, sociologue des médias. On va, avant de se pencher, si vous voulez bien, sur ce que j'appellerais l'aspect sociologico-politique de l'aventure Canal+, on va peut-être revenir sur cette aventure, sur l'histoire de cette aventure, et peut-être d'abord par son démarrage. Bonjour Bertrand Delay.
Bonjour.
Canal+, lancé en 1984, c'était le 4 novembre, André Rousselet, PDG d'Havas, ouvre ainsi l'antenne.
Il est 8h, 4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+. Le président de Canal+ souhaite la bienvenue à ceux qui sont devant leur poste de télévision et les accueille en leur demandant d'être présents dans les minutes qui viennent. Il y a un peu d'émotion dans la voix du président de Canal+. Tous ceux qui nous ont fait confiance, en leur disant que nous ferons tout et nous mettrons tout en œuvre pour qu'ils ne soient pas déçus.
Eh oui, le ton paraît un peu lointain. On est à l'entroit du premier septennat de François Mitterrand. La France ne connaît encore que 3 chaînes publiques. Et donc, paradoxe caractéristique de cette période, c'est donc le pouvoir socialiste qui se trouve à l'origine de cette première chaîne privée française, une chaîne qui va devenir culturellement emblématique de la gauche, ce qui a fait dire à un commentateur d'ailleurs que le parti des prolos devenait celui des branchés. Bertrand Delay, donc rappelez-nous d'abord peut-être les circonstances de cette naissance.
Alors, les circonstances, bon, 84, François Mitterrand a déjà réussi l'ouverture de la radio, puisqu'il y a eu la loi sur les radios libres, qui a très très bien marché. Et au fond, il entend être celui qui va faire exploser le monopole public qui existe sur la télévision. Et donc, voilà, la chose un peu paradoxale qui est finalement, qui épouse les ambiguïtés de l'époque aussi, c'est que la première télévision privée, c'est une télévision à péage. Pour un pouvoir socialiste, c'est quand même un peu particulier, malgré tout.
On est juste après
le tournant. Alors, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a une chose que j'ai su beaucoup plus tard, mais au fond, dès le départ, Canal+ a le désir de ne pas faire de l'information, ou très peu. Alors que Pierre Lescure était un directeur de l'information reconnu de la deuxième chaîne.
Et présentateur
reconnu sur l'info, sur de nouvelles écritures de l'information à l'époque, sur la deuxième chaîne. Et on vient le chercher, et là il dit, justement, on ne fera pas d'information.
On fera quoi alors?
Et alors, simplement, la première idée, c'est, et Rousselet le dit beaucoup plus tard dans ses mémoires, c'est qu'il s'agissait de ne pas avoir François Mitterrand sur le dos, ou en tout cas le moins possible. Donc on a décidé de ne pas faire beaucoup d'informations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a le désir de porter, on va dire, une partie de la contre-culture qui, sous Jacques Lang, sous ce moment-là historique, a besoin de s'institutionnaliser. Donc elle a besoin d'un endroit où elle va avoir une vitrine, et ça n'est pas pour rien que beaucoup des animateurs de Canal+ vont être pris dans le vivier, à l'époque, de Actuel et Nova. C'est le premier endroit où on va chercher. Ça, c'est le premier élément. Alors, ce qu'il faut tout de suite voir, aussi avoir en tête, c'est que quand on parle de la réussite de Canal+, le grand talent de Rousselet et Lescure a été de savoir à un moment donné faire demi-tour. C'est-à-dire que sur 84-85, les débuts ne sont pas florissants et loin de ce qu'ils imaginaient. Donc au fond, moi je me souviens très bien, j'étais jeune pigiste à la 2, et où on parlait de Lescure, on disait pour une fois il s'est pris un bouillon. C'est-à-dire qu'en fait on n'y croyait pas, on n'y croyait absolument pas. Et puis il y a ce moment très particulier où on décide d'en faire la chaîne du cinéma et du sport. Ce qui fait que ça n'est plus du tout la chaîne branchée. Elle, d'emblée, elle part sur le grand public, elle va réussir ce tournant économique, et sa grande force, ça va être de jouer sur ces deux curseurs, sur un curseur branché pour le clair, et sur un curseur, j'allais dire, grand public, par rapport à des contenus que les autres chaînes n'offrent pas.
On va reprendre cette histoire, mais je voudrais d'abord donner la parole à Léo Cher. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Donc vous fûtes l'un des artisans de ce projet Canal+. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept au départ de cette chaîne?
Oui, moi j'étais directeur du développement du groupe Havas à partir de 1981 et j'ai travaillé sur ce projet pendant 3 ans, de 81 à 84. Le concept était un concept américain qui était déjà très développé à l'époque, qui s'appelait HBO, qui consistait à vendre des films par l'entremise de la télévision. L'État socialiste à l'époque nous a imposé un passage en clair, parce que les socialistes trouvaient ça un peu choquant, que la première télévision qui est privée ou semi-publique soit à péage, et donc ils nous ont imposé une partie en clair. C'est donc dans une réflexion publicitaire chez Havas qu'on a eu l'idée d'habiller la chaîne à partir des émissions en clair. À l'époque, il y avait des études sociologiques qu'on appelait les courants socioculturels, et il y avait un courant qui dominait et qui était en train de se développer qu'on appelait les décalés. Le groupe des décalés.
Ça veut dire quoi?
Les décalés, c'était des gens qui n'étaient pas dans le centre sociologique de la France. Si vous voulez, il y avait aussi bien des gens des banlieues. Il y avait les premières générations qui suivaient l'immigration. Bref, on a joué une stratégie qui était une stratégie qui ressemblait plus à Jamel, déjà, que à Léon Zitrone, si vous voulez.
Vous étiez effectivement en avance, on peut dire, sur ce plan-là. Qu'est-ce qui a fait, donc, Bertrand Delay parlait tout à l'heure du début, qui n'était peut-être pas forcément, le succès n'était pas forcément là dès le départ. Est-ce que vous êtes d'accord que, progressivement, il y a eu cette mutation, l'ouverture notamment sur le sport et le cinéma?
Le cinéma et le sport, c'était la racine du projet. Mais c'était bien l'abonnement qui comptait. Et si vous voulez, l'emballage, puisqu'on a choisi d'utiliser la période en clair pour faire l'emballage de la chaîne pour les décadés, pour les gens qui n'étaient pas le centre de gravité de la France profonde, et c'était déjà assez cher. Voilà, on a opté pour un style qui était dominant au début des années 80, qui était le style Coluche, le style des nuls, des bronzés, des inconnus, enfin de tous les gens qui étaient dans la dérision, dans la rupture par rapport aux politiques. C'était une contre-culture qui s'est développée à partir de mai 68, si vous voulez.
Alors, cette contre-culture, je me retourne vers Bertrand Delay, finalement, à un moment donné, elle devient, sinon majoritaire, du moins, elle occupe le centre du jeu. Enfin, et ça, c'est l'apogée de Canal+, est-ce qu'on peut dire ça? Et quand dateriez-vous ce moment?
C'est-à-dire qu'il y a aussi, elle s'institutionnalise fatalement, mais moi, je sais pas tout de suite. C'est-à-dire que je pense que Canal+ donne une impression de réussite en termes éditorial absolu, qui commence à gagner les autres chaînes à partir du début des années 90. C'est-à-dire qu'il faut quand même, c'est pas immédiat. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quelque chose qui est semé. Je pense à des formes d'écriture. Je pense par exemple à quelque chose comme 24 heures, qui avait été un truc très fort, qui est un magazine d'infos produit par Capa pour Canal+. Et en gros, cette écriture de documentaire en immersion, sans commentaire, etc., va après gagner l'ensemble des autres chaînes. Mais 8-10 ans après le début de Canal+, il faut toujours un temps, d'abord parce que, comme c'est certes des programmes en clair, mais n'était pas vu de tout le monde, ça restait quand même une niche, il faut que ça commence par... Mais moi, qui étais déjà dans le métier à l'époque, je me souviens que à partir de 80... On va dire, sans dire de bêtises, 89, 90, la chose que l'on regarde, c'est Canal+. Et vous avez l'exemple typique de cette culture qui devient dominante, qui est très en écho de Canal+, qui est le défilé de Goud en 89 pour le bicentenaire de la Révolution. C'est-à-dire qu'on est sur ces codes culturels qui sont dominants et qui ont été portés, il faut le dire, beaucoup par Jacques Lang.
Alors, Alexandre Michelin, vous avez été, donc, je le disais, de 2001 à 2003, directeur des programmes des services du groupe Canal+. Qu'est-ce que vous diriez des recettes du succès, avant de parler tout à l'heure du déclin?
Moi, c'était intéressant. Canal vient me recruter. J'étais patron d'une chaîne qui s'appelait Paris Première, et on avait développé aussi une partie d'innovation, et c'est ça qui intéressait Canal. Et je me souviens très bien de mon entretien d'embauche avec Alain De Greff, parce que je me suis retrouvé dans son bureau à 19h45, et puis les guignols ont commencé. Et j'ai passé mon entretien à regarder les guignols avec Alain De Greff. Et pour moi, c'est l'image, une des images les plus fortes, parce que c'était une de ses créations les plus impressionnantes. Et c'est intéressant parce que c'est le savoir-faire de Canal qui était manifesté dans les guignols. À l'origine, il y a un concept anglais qui s'appelle le « spitting image ». C'est des marionnettes, qui fait beaucoup de bruit. Et puis, en fait, Alain De Greff reprend et transforme cette idée, il la francise et il en fait la référence absolue pendant plusieurs années, et même au-delà, même après son départ, les guignols sont restés. Je crois que c'est un savoir-faire pour prendre des concepts, comme HBO, comme le Spitting Image, comme d'autres, pour apporter une touche qualitative et innovante. Il faut jamais oublier que on parle de Nova, mais De Greff venait de France, d'Antenne 2. C'était un ancien monteur. Pierre Lescure, pareil. C'est une grande partie du savoir-faire du service public et d'Europe 1, qui étaient les antennes les plus innovantes. Antenne 2, la deuxième chaîne.
La deuxième chaîne
de Degroupe. Hein. C'est ouais. Donc c'est ce savoir-faire qu'ils amènent. Un savoir-faire audiovisuel, un savoir-faire journalistique et une curiosité pour la culture américaine et la contre-culture américaine. Et c'est ce mélange très particulier qui fait qu'il y a une curiosité pour tout ce qui vient d'outre-Atlantique, mais aussi une très grande connaissance de la France.
Et Alain De Greff, il faut rappeler, mort il y a tout juste un an maintenant, et qui a donc été effectivement directeur des programmes. Comment ça se passait, donc, cette articulation, parce qu'on va y revenir sur la dernière partie, entre le clair et le crypté?
Alors moi, je l'ai vécu de manière paradoxale, parce que moi, j'ai été recruté pour développer Canal Satellite, donc toute la partie numérique. Et c'est vrai que je participais aux réunions de programmes de Canal avec Alain De Greff une fois par semaine, où il gérait justement cette subtilité entre le clair, les émissions. Chacun présentait ses concepts. Et puis ses idées. Et il faisait c'était un peu de l'alchimie. Hein. C'est pour ça qu'il travaillait un peu à l'ancienne. Hein. Alain De Greff, il écoutait. Et c'est pour ça qu'il avait une relation extrêmement proche, très particulière. Et c'était cette ce mélange entre le on va dire cette culture rock, on va dire, hein, et puis une connaissance très intime, presque intuitive, hein, de la culture urbaine ou de ce qui allait arriver comme tendance. Et donc c'est ce mélange permanent.
Alors on se remet quelques notes à l'oreille.
Toute l'actualité de la semaine en images. On commence bien sûr par le dimanche, ça va être vite réglé. Dimanche, on a retrouvé Elliot le dragon. Et puis une image d'archive, un juif chinois pendant la guerre. On voit bien l'étoile blanche, c'est pas une étoile jaune parce que jaune sur jaune ça se voit pas. Pas con les nazis.
La chanson d'Elton la plus connue en France, c'est « Don't go breaking my heart ». Moi, je veux ressortir cette chanson en français.
Ne viens pas me casser les couilles.
Tu n'es qu'une vilaine grenouille.
Michel, votre ami d'enfance, Jeanne Masse, aura demain 49 ans seulement.
Hollandaise, Hollandaise.
Voilà, sans transition, vie privée, François Hollande est le premier président célibataire de la 5e République et apparemment, il le vit bien.
Je suis pincé de mou, de mec bien casé. À ceux dont beurre, beau gosse, grâce à Julie Gaillé. Parce que je suis célibataire.
Et voilà, pour cette petite évocation sonore, on aura reconnu Les Nuls avec Alain Chabat en 87, Antoine Decaune, humoriste chroniqueur de Nulle Part Ailleurs, 87-95, présenté par Philippe Gildas, puis par Guillaume Durand. Top 50, diffusé sur Canal de 84 à 93, de Louise Bourgoin, Miss Météo, du Grand Journal, présenté par Denisot, c'était en 2006. Le générique, évidemment, de l'émission Groland, et puis un extrait des Guignols de l'Info, c'était en 2009. Avant d'aborder maintenant la partie plus sociologique et plus contemporaine de cette émission, je voudrais quand même qu'on revienne sur tentative de définir plus précisément ce que c'est que cet esprit canal. On va faire un tour de table. Mais d'abord, écoutez ce que disait Michel Denisot sur ce thème, interrogé en 2009 sur France Inter.
Je ne sais pas ce que c'est l'esprit canal. Je pensais plutôt la diversité, que quand vous faites référence à la naissance de la chaîne il y a 25 ans, c'est vrai que c'était la quatrième chaîne, parce qu'il n'y en avait que quatre. Aujourd'hui, il y en a quasiment 400. Donc c'était plus facile d'être novateur il y a 25 ans qu'aujourd'hui. Et l'esprit de la chaîne, je pensais apporter un programme un peu différent des autres chaînes, mais c'est ce que cherchent à faire toutes les chaînes aujourd'hui. C'est vrai que la chaîne n'a pas démarré avec un esprit caustique particulier, puisque le premier jour à l'antenne, il y avait Fabrice, Pauline Favier, etc. Pas Pauline Favier, comment ça s'appelle ?
Sophie Favier,
bien sûr.
Maxi Tête.
Tout à fait. Donc, c'est venu petit à petit, et voilà. Donc, c'est une chaîne qui a été créée par André Rousselet, et ensuite avec une équipe qui peu à peu a su imprimer un style avec Pierre Lescure aux commandes. Oui, c'était une entreprise où on travaillait avec beaucoup de liberté d'entreprendre. C'est vrai que quand on allait proposer un projet à Pierre Lescure ou Alain De Greff, on n'avait pas besoin de prendre rendez-vous. Et pour 8 jours après, on entrait dans le bureau, on discutait. Et parfois, l'émission se faisait la semaine suivante.
Ah oui, c'est vrai.
C'était assez formidable, ouais.
La définition de Michel Denisot, il était interrogé par Elsa Boublil sur France Inter. Il reste quand même quelques marges d'élaboration conceptuelle après cette définition. Donc je vais faire un petit tour de table pour tenter à chacun d'entre vous de définir cet esprit. Léo Cher, je reviens vers vous. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce que c'est selon vous que l'esprit canal ou ce que c'était que l'esprit canal ?
Canal, c'est des films et du sport qu'on vend à des abonnés. Ça, c'est le produit. Et l'emballage, qui est un emballage, comme je disais, produit par une agence de publicité qui s'appelait Havas, et qui était destiné à ce qu'on appelait à l'époque les décalés, c'est-à-dire les gens qui étaient des marginaux par rapport au cœur de la société française. Donc l'esprit canal, c'était l'esprit décalé dès le début, et ça a pris très vite. C'est-à-dire que dès la tentative à l'époque de Fabius de transformer Canal Plus en chaîne en clair, c'était dès 85-86, on s'est rendu compte que la chaîne avait tellement de succès, déjà, au bout d'un an ou deux, que le premier ministre de l'époque, Fabius, avait dû renoncer et la chaîne est restée telle que grâce au succès de l'Esprit Canal. Donc de la partie qui ne rapportait pas d'argent, de la partie en clair.
Donc et l'Esprit lui-même, comment vous le caractériseriez en quelques mots?
Oh ben c'est l'héritier de la génération. Moi j'ai écrit un petit livre pour raconter ça. J'ai dit c'est la rencontre des bronzés et des tontons flingueurs. À l'époque, les tontons flingueurs, c'était les Mitterrand, Rousselet, etc. C'était des gens qui avaient une soixantaine d'années, qui étaient revenus de tout, qui étaient complètement blasés et cyniques. Et puis les bronzés, la génération des bronzés, c'est la génération des baby-boomers, des gens qui avaient 20 ans en 68 et qui ont rompu avec... les institutions, c'était des nuits debout des années 70, si vous voulez. Et donc, l'esprit canal, c'est l'héritier des 68 arts, de ceux qui étaient post-politiques, post-modernes, disons.
On va demander
qui principalement faisaient dans la dérision et, bon, toutes les vedettes de cette génération à l'époque, que ce soit Coluche, les bronzés, les inconnus, les nuls, même Thierry Leluron, ce que deviendront les guignols, tout ça était dans le même état d'esprit, qui était un esprit de dérision totale par rapport au politiquement correct, par rapport aux politiques en général, en rupture.
Alors, Bertrand Lelay n'est pas tout à fait d'accord, on va lui donner la parole tout à l'heure. Peut-être Olivier Pourriol, sur cette même question, tour de table, qu'est-ce que l'esprit canal?
Alors, l'esprit canal, si vous écoutez la formule chimique, donc dedans il y a de l'Amérique, donc il y a HBO et le Saturday Night Live qui ont été étudiés de très très près. Et en même temps, vous avez en fait, ce qu'on appelle la contre-culture, faut être plus précis, c'est la culture de cours de récréation. C'est-à-dire que ce que j'ai observé, moi, en étant à Canal, mais bon, dans la période déjà vers la fin, c'est que tout ce dont rêvent les gens quand ils parlent de l'esprit Canal, c'est un esprit d'enfance, mais c'est l'esprit de l'école buissonnière. C'est-à-dire que le rock, c'est ce qu'on fait quand on n'est pas à l'école. C'est avant l'école, dans la cour de récré, après l'école. Et tout cet esprit-là, vous avez des adultes qui ont eu l'autorisation sur les ondes, mais des ondes qui étaient là pour admirer les États-Unis et ce que les États-Unis avaient de plus pas subversif mais de plus spectaculaire. Il y avait le sens américain du spectacle et donc ce qu'on appelle dérision. Moi, je crois pas que la dérision faisait partie de l'esprit canal. C'était l'idée de professionnaliser le rire, de faire un rire qui soit à la fois que en fait on pouvait travailler pour faire du rire excellent, un peu comme quand on compare la présentation des Oscars et celle des Césars. On voit bien que les Césars continuent à essayer de singer le professionnalisme américain. De temps en temps ça marche, mais à chaque fois on dit c'est pas aussi bien que les Oscars. Et là, la grande réussite, c'était qu'il y avait un mélange de cette admiration pour l'Amérique et de gens qui étaient des vrais potaches. Donc, pour moi, c'est ça le mélange, c'est l'esprit de la cour de récré.
Professionnalisation du rire fait par des potaches, donc faites par des potaches.
Des potaches qui travaillent beaucoup.
Qui travaillent beaucoup quand même. Alexandre Michelin, sur cette définition, à vous.
Pour moi, il y avait dans mon vécu beaucoup de curiosité. Moi, j'ai travaillé sur toute la partie technologique aussi, pour transformer aussi dans Canal Satellite et apporter ça. Il y avait une immense curiosité de la part de Pierre, d'Alain. C'était des gens qui étaient tout le temps en train de chercher la nouveauté, qui passaient du temps à aller voir ce qui se passait, qui étaient au courant de tous les films, qui lisaient, qui écoutaient beaucoup de musique. Je crois que c'est quand même une de leurs caractéristiques et une volonté de rendre ça facile. Donc ça donnait, avec la dérision, un côté, comme on disait, potache. Mais et puis... Il faut quand même le dire, on dit culture contre culture, c'est vrai. J'ai tendance à dire quand même une très grande culture, qui était souvent masquée. En tout cas, chez De Greff, c'était souvent sous le ton de la plaisanterie, de l'allusion. Mais en fait, il était extrêmement cultivé et il jouait avec les codes. Il était très situationniste dans l'esprit.
Bertrand Delay.
Exactement. Je pense que la chose intéressante, c'est que... Enfin, ça tient à la personnalité, à mon avis, de Lescure et De Greff. Ils ont aussi un côté dandy. Il y a une forme de dandisme, c'est-à-dire que l'esprit Canal, c'est aussi ça, c'est-à-dire que moi je me souviens, j'ai bossé à ce moment-là pour Canal, hein, par exemple la journée de la télé, qui est un truc absolument incroyable, où on fait tout un tas, on commande à quasiment toutes les productions de Paris de faire des films où on parle de la télé comme on veut, et moi j'avais fait un truc qui était revenu régulièrement sur la télé parlée par les gens qui n'ont pas la télé. Et je me souviens très bien de Greff me dire, mais ça, c'est l'idée qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette capacité à essayer de prendre le pas de côté pour regarder d'une autre façon, sous une autre perspective. Alors, ça crée l'humour, ça crée l'insolence, mais ça peut créer autre chose aussi. Et c'est en ça que effectivement, il y a la dimension situationniste, parce que faire une journée de la télé ou mettre les résultats de l'élection de 95 des Guignols en soirée électorale, c'est totalement situationniste, ça, on peut pas faire mieux dans le genre. Mais au-delà de ça, il y a une forme de dandysme, d'où la culture classique, d'où etc., etc., dans le positionnement.
Bonjour Isabelle Verramasson.
Bonjour.
On vous entendra tout à l'heure dans votre chronique, mais sur cette définition, dans ce tour de table, est-ce que vous avez quelque chose de plus à apporter?
Alors, de différent? Moi je suis aussi historienne de la télévision, donc je connais bien la création de Canal+. Donc il faut effectivement rappeler que c'est d'abord quand même une chaîne du cinéma et du sport. Et les évolutions qui sont faites en matière de mise en scène du sport, par exemple, sont très très importantes. Si Canal+ gagne de l'argent, c'est d'abord, pas grâce à son esprit ou à cause de son esprit, mais parce qu'il va présenter des films, enfin c'est la chronologie des médias, et puis cette incroyable manière de filmer. Mais si je veux caractériser cet autre Canal+, celui que, finalement dont on parle aujourd'hui, je dirais que c'est une sorte de refus de l'esprit de sérieux. C'est pas très loin de ce que vous avez dit, c'est-à-dire que l'esprit de sérieux, c'est tout ce qui était, ce qui faisait l'ORTF, la télévision de papa, c'est finalement, on va se poser en s'opposant à ce qu'on va avoir. Et on peut faire cela parce qu'on est une chaîne cryptée. C'est-à-dire que vous dites c'est extraordinaire, parce que non, c'est parce que si HBO est HBO, c'est parce qu'il a un tout petit public, toute petite audience. Dès que vous avez une audience de masse, vous ne pouvez plus faire du Canal+ ou faire du HBO. Donc c'est par cette liberté, elle vient à Canal+ de sa petite audience, du fait qu'il n'est pas contraint par la fameuse loi des reins de la télévision qui est le consensus, et il va en profiter. Moi je pense au début de la télévision, c'est dans les années 50, où le papa, hein, de Cohn racontait qu'il disait n'importe quoi dans le poste, il savait qu'il y avait personne qui l'écoutait, ça donne une espèce d'insolence dans ces cas-là formidable. Quand vous commencez à avoir des millions de gens qui vous regardent, vous commencez à être plus poli.
Alors, on a dit pas mal de choses positives sur cet esprit Canal, mais il faut quand même bien souligner, rappeler qu'il a été très décrié aussi. Donc voilà ce qu'on disait, par exemple, Alain Finkielkraut, une arrogance absolument fanatique, une bien-pensance en béton armé, une certitude de granit, et l'on se moque toujours des mêmes, de ceux que Philippe Muret appelait les ploucs émissaires. Est-ce que vous voudriez reprendre cette thèse, Olivier Pourriol, d'une certaine façon?
Non, je dirais pas ça. Faudrait distinguer l'humour et les conditions de l'humour. C'est-à-dire que pour être drôle, il faut être minoritaire. C'est Deleuze qui disait ça. Hein, l'humour, c'est minoritaire. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un qui vous domine et qui, en plus de ça, vous fait une blague, ça s'appelle de l'humiliation. Et c'est ça, le problème. C'est que Canal+, qui au départ était l'équivalent des 400 coups de François Truffaut, cette espèce d'esprit, un mélange de libéralisme et de libertaire, soudain, c'est devenu un esprit, c'est pas un esprit, une situation dominante, gérée par des gens qui avaient fait HEC, etc. Ça avait complètement changé de nature, et je pense même que Pierre Lescure et Alain de Greff étaient les premiers à ne pas reconnaître le devenir de leur créature.
Bertrand Delay, sur cette critique qu'on a souvent entendue, cette dérision qui finissait par tout corroder.
Mais je pense que c'est aussi le Canal+, c'est
le mélange des gens aussi.
Non, mais c'est aussi le produit d'un moment ou d'une époque, c'est-à-dire que est-ce que finalement cette façon de se moquer du politique, et on voit bien dans les critiques qui tombent depuis quelque temps sur Cyril Eldin par exemple, sur sa façon de traiter le politique, qui était jugé acceptable il y a encore, on va dire, 5, 6 ans, 7 ans. On arrive à un moment aujourd'hui de telle tension dans la société que cette espèce de tout se vaut un peu potache, un peu insolent, ne passe plus, parce que il n'est plus audible, il n'est plus acceptable au sens moral du terme.
Et donc, il est repris et donc il touche un autre public, et on n'est plus dans le public minoritaire.
Ça sera le thème de la dernière partie. Est-ce que finalement cet esprit s'est répandu ou est-ce qu'il a disparu?
Le secret des sources, Antoine Mercier.
Alors pourquoi Canal+ est en crise? Que veut en faire Bolloré? Que dirait la fin de l'esprit Canal de notre époque? D'abord, est-ce la fin? Et pourquoi? Compte rendu de notre consoeur de France Inter, Céline Asselot, le 22 avril dernier, c'est au lendemain de l'Assemblée Générale des Actionnaires.
Et si Canal+ faisait faillite ? Le scénario évidemment n'est pas d'actualité, mais la menace a bien plané hier sur l'Assemblée Générale de Vivendi. Une concurrence de plus en plus forte, des droits sportifs de plus en plus chers, et voilà que les chiffres donnent le vertige. Canal+, c'est 400 millions de pertes attendues en 2016, un endettement qui frôle le milliard d'euros. Et Vincent Bolloré le dit sans détour, pas question de renflouer les caisses indéfiniment. Si la situation a été présentée sans phare par les dirigeants de Vivendi, c'est aussi pour justifier un changement de stratégie qui n'a pas toujours bonne presse. D'abord, Canal+ va faire alliance avec son grand rival, beIN Sport, via un accord de distribution exclusive. Ensuite, la chaîne va réduire drastiquement ses coûts. Vincent Bolloré cite en exemple le Grand Journal. Les programmes en clair, qui ont longtemps été la vitrine de Canal, ne sont plus la priorité. L'objectif désormais, c'est de renforcer le crypté dans l'espoir de séduire de nouveaux abonnés.
Bertrand Delay, en quelques mots, pourquoi aujourd'hui cette crise à Canal ?
Ce qui est miraculeux, c'est qu'elle n'ait pas eu lieu avant, en réalité. C'est ça, c'est le grand miracle, et ça, c'est le, on peut dire que c'est le bon bilan, malgré tout, non déplaise à Vincent Bolloré, des prédécesseurs. C'est-à-dire que, au fond, à partir de la TNT et de l'offre démultipliée, y compris de chaînes à péage, avec, je pense par exemple à Orange Cinéma pour le cinéma, avec des séries, etc., Canal+, qui n'offrait que une chaîne et ses quelques satellites, avec un ticket d'entrée relativement élevé, était dans une situation objectivement de plus en plus difficile économiquement. Donc, ils ont réussi par une stratégie marketing extrêmement intelligente, extrêmement bien faite, à retarder le plus possible ce moment-là. Maintenant, on y est. Et on y est de deux façons. C'est-à-dire qu'on y est parce que ça, c'est une réalité. Et la deuxième chose, c'est que pour le jeune public et pour le public qui a toujours été dans une partie de l'ADN de Canal, ce qui se joue, ça n'est plus de la consommation linéarisée. C'est de la consommation délinéarisée, c'est-à-dire quand je veux, je consomme ce que je veux. Et donc, de ce point de vue-là, l'idée de se poser la question encore de l'émetteur, c'est-à-dire de la chaîne verticale, au profit d'une boîte horizontale.
C'est la fin de la télé, en général.
Oui, oui. Au profit d'une boîte ou d'un Netflix ou de Spicy, puisque, par exemple, pour faire plaisir à Alexandre... c'est la question de la télévision de demain qui est en fait implicitement posée.
Alors Alexandre Michelin là-dessus, et peut-être un mot aussi sur la stratégie de Bolloré aujourd'hui, laquelle est-elle ?
Je pense qu'il y avait une conscience très très forte, comme le disait Bertrand, du risque que courait Canal avec l'expansion de l'univers audiovisuel. Moi, quand je suis recruté pour faire les programmes de Canal Satellite en cohérence avec l'antenne qui est Canal. Et donc on a des chaînes thématiques, on a même des services de pay-per-view, tout ça est parfaitement anticipé. Ce qui est vrai, c'est qu'avec le départ de cette génération et puis l'arrivée d'autres actionnaires, tout ça a été brouillé. Et puis ensuite, on a quand même en France des énormes capacités défensives et les conditions économiques de Canal sont si importantes pour l'ensemble du système, notamment pour le cinéma et pour le sport, que finalement l'édifice a tenu l'esprit et puis le reste de la maison, si vous voulez. Mais c'est l'époque qui a changé. Et ça n'est pas d'ailleurs vrai qu'en France. On voit bien que les expressions les plus... implicante pour toutes les nouvelles générations, se passe sur d'autres endroits que la télévision.
Est-ce que l'époque a changé ? C'est ce que disait Bertrand Delay, c'est-à-dire qu'on n'écoute plus de façon linéaire la télévision.
On n'écoute plus de façon linéaire et que ailleurs, aux États-Unis, par exemple, HBO est en transformation. HBO a lancé l'année dernière un service de télévision à la demande. Parce que sinon, HBO a exactement le même problème que Canal. Donc c'est pas que les hommes et leur stratégie, c'est aussi un contexte
et
général.
Et la stratégie de Bolloré dans tout ça, qu'est-ce qu'il peut faire si c'est l'époque ?
Ben justement, il essaie de s'adapter, donc de changer de territoire. Il pense une version latine. Il essaie de mobiliser la technologie. La grande difficulté qu'il a, c'est qu'il n'a pas la puissance technologique qu'il devrait avoir pour mener à bien cette transformation. Mais il a une puissance de programme et puis il a des moyens financiers.
Léo Cher, un petit mot là-dessus sur les raisons de cette crise profonde aujourd'hui ?
Écoutez, au départ, il y a une schizophrénie de Canal+, dont on a parlé. C'est-à-dire, d'un côté, c'est un projet libertarien, un peu américain, qui consiste à faire un HBO européen. Et puis, de l'autre côté, il y a ces émissions en clair où on fait de l'emballage. C'est-à-dire que l'emballage est devenu plus célèbre que le produit lui-même. Et donc, quand Bolloré reprend... cette entreprise qui est en perte de vitesse avec du désabonnement, il se rend compte très rapidement que l'esprit Canal n'est compatible qu'avec une réussite de l'abonnement. S'il n'y a plus d'abonnements, si des gens se désabonnent, bah on n'a plus tellement envie de rigoler. C'est tout à fait normal et humain. Donc, ils se concentrent sur une stratégie qui consiste à essayer d'inverser la courbe du désabonnement. Ce que n'importe quel chef d'entreprise peut comprendre.
Ouais, mais comment il fait alors? Comment il fait?
L'idée est très simple. C'est le virage qui a été raté à mi-parcours au moment où il y a eu une tentative de fusion avec Universal, avec les Américains. C'est-à-dire que cette schizophrénie profonde de Canal+, doit être maintenue pour sauver Canal+, c'est-à-dire ça doit être un projet européen et américain. On ne peut pas sauver Canal+, en restant uniquement européen. On est obligé de savoir produire des séries, de savoir conquérir des marchés qu'on est en train de perdre.
Merci beaucoup. Merci Léo Cher d'avoir été en ligne avec nous. Je me retourne vers Isabelle Verramasson. On se posait la question de savoir est-ce que l'esprit canal a disparu ou est-ce qu'au contraire, finalement, il a tout envahi?
Alors oui, je crois que c'est la victoire de Canal+, c'est que l'esprit canal, c'est-à-dire ce refus de l'esprit de sérieux au départ, a envahi un peu la télévision qui était, comme on le sait, extrêmement guindée pendant des années, même si elle l'est devenue de moins en moins naturellement. Hein, l'époque a changé, évidemment. Mais ce qui me semble très intéressant aussi, c'est que l'esprit canal, c'est pas seulement la dérision, c'est pas seulement le rire ou l'esprit de sérieux ou la déconnade, c'est aussi, et ça a évolué, ça n'a pas été vrai au départ, c'était de rire à propos de quelque chose de sérieux. Et ça, c'est la victoire de Canal+, c'est-à-dire qu'on voit bien que la dérision en soi, comme on pouvait rire à une certaine époque, par exemple les jeux, la gaffe, le rire pour le rire, est quelque chose qui est en train de moins intéresser les gens, les audiences baissent, et on retrouve cette idée qu'il faut faire rire, mais à propos de débats nationaux. Et donc on retrouve ce mélange entre le sérieux et la dérision qui fonde une part de Canal+, et qui, on voit bien, envahit la télévision, envahit l'espace public, envahit notre manière de considérer les choses. On peut le déplorer, on peut s'en féliciter. C'est dur pour les politiques. Ça permet aussi d'aborder des thèmes que l'on n'abordait pas, parce qu'ils ne considéraient, ils n'étaient pas ni assez drôles. Je pense, par exemple, à tout ce qui était autour du grand journal, c'est-à-dire du petit journal, au contraire, c'est-à-dire le fait d'analyser, de décortiquer, de refaire, de reconstruire les dessous de l'information. C'est quelque chose dont on ne parlait pas, parce que ça c'était soit pas drôle, soit trop sérieux. Et là, ils ont créé ça, et c'est une autre manière d'informer les Français.
Et c'est repris par le groupe TF1.
C'est ce que je veux dire.
Et ça dit quelque chose, quand même, du
Absolument.
Moment.
Absolument. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que Canal+, l'esprit de canal, se mélange entre le sérieux et la dérision, s'est installé à peu près partout dans l'espace public médiatique.
Olivier Pourriol, vous êtes d'accord avec ce diagnostic?
Disons que la nouveauté de l'esprit canal en 84-85, c'est assez comparable à ce qui s'est passé quand l'Amérique est arrivée en Europe avec les GIs, avec les chewing-gums, avec les cigarettes, avec le rock'n'roll. C'est-à-dire qu'il y avait un effet de contraste tel qu'il y avait une nouveauté qui est devenue ensuite l'oxygène de tout le monde. Tout le monde s'est mis à respirer américain en Europe en 1945. Même François Truffaut dit, même ce rêve d'Hollywood, même des gens aussi sérieux que Dreyer l'avaient. Tout le monde a rêvé d'Hollywood. Et ce que j'appelle l'esprit canal, en fait, c'est juste l'esprit américain. Et ce que j'ai trouvé, moi, le plus étonnant dans l'épisode Bolloré, ça me fait penser à Jurassic Park. C'est-à-dire que au début, quand vous avez des dinosaures un peu agressifs, un peu prédateurs, avec un peu d'énergie juvénile comme ça, du sang frais qui conquiert un territoire, c'est le canal du début. Après, ils s'installent, ça devient un peu des herbivores, des grands trucs un peu plus lents. Et soudain, il y a le tyrannosaure, il y a le Rex qui arrive et qui ramène un peu les dinosaures à leur origine, violente, brutale. Et c'est comme si dans la chaîne de prédation, vous aviez des super prédateurs qui étaient devenus des mecs de HEC très cool, qui exerçaient leur violence cool. Soudain, il y a un pas cool qui arrive et qui leur rappelle la loi de la jungle. Mais bizarrement, c'était ça le contenu de Canal au départ. La promesse, c'était quoi? Le foot, donc la compétition, et le cinéma américain. Bon, bien sûr, il y a l'obligation de production française, mais le cinéma américain, c'est quoi? C'est Wall Street, c'est cette violence-là, et les patrons de Canal ont été traités par Bolloré comme dans Wall Street, on traite les patrons américains. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le vendredi, soudain, tu te retrouves avec ton carton et tu pars dans la rue. Et c'est comme si Canal avait été dévoré par les contenus qui sont devenus la norme de ce qu'on accepte en termes de séries, en termes de films, en termes d'imaginaire collectif.
Mais est-ce que c'est pas cool, ils ont de l'esprit ? C'est pas cool dont vous parlez.
Ben,
est-ce que c'est pas la fin quand même ? Parce que là, on s'interroge. Est-ce que ça a disparu ou pas ? Parce que peut-être c'est simplement aussi le fait que, certes, on a repris des modes, des gestes, des façons de faire de Canal, mais est-ce qu'il reste quelque chose, j'allais dire, de corrosif au sens positif, de critique par rapport à la société ?
Il n'y a plus de corrosion puisque tout le monde respire cet oxygène. C'est plutôt une question de changement de dimension. À l'échelle de la France, être potache avec des objets américains rigolos, c'était possible avant la mondialisation et ce qu'apporte Internet. Maintenant, avec Internet, c'est impossible. C'est-à-dire que le but de Bolloré, c'était le but de Canal du départ, c'est de vendre quelque chose qui ait de la valeur, mais là, pas qu'en France. Il faut vendre quelque chose qui est en anglais, qui a de la valeur en Chine. Il va remplacer le grand journal par une série bien écrite. Voilà, il faudra l'acheter quelque part ou la produire à l'américaine.
Alexandre Michelin.
C'est ce que je crois aussi, c'est que ça se joue dans la série aujourd'hui, le cool. C'est peut-être moins dans les émissions en clair que dans la capacité du groupe Canal à articuler une politique éditoriale en matière de série qui puisse être exportable, avoir une espèce de French touch, si on y arrive, ou d'European touch, si on peut y arriver aussi, pour porter justement d'autres histoires. Sinon, évidemment, sur les plages en clair qui seront parties sur TF1 ou pire sur TMC ou sur D8, il n'y a plus besoin d'avoir cette mécanique. En revanche, être capable de raconter des histoires avec la fiction, éventuellement le cinéma français, puisqu'il y a une très grande influence de Canal sur le cinéma français, c'est peut-être une des voies naturelles, avec des nouvelles technologies.
Mais par exemple, la série qu'ils ont fait avec... sur les services secrets, j'ai un trou.
Le deuxième,
sur
les légendes.
Le bureau des légendes. Et elle est très intéressante de ce point de vue-là, parce que c'est à la fois, il y a que Canal qui pouvait produire ça, parce que dans la façon dont c'est réalisé, il y a quand même quelque chose dans l'esthétique d'un peu décalé par rapport à ce que pourraient faire les autres chaînes. Donc c'est toujours le fameux dandisme ou le pied décalé, encore une fois. Et il y a une forme d'écriture qui, elle, effectivement, peut être pensée de manière mondiale. D'ailleurs, les sujets même qu'on traite dans cette série sont des sujets mondiaux.
Peut-être dans le documentaire.
Bertrand, une dernière question, puisque vous êtes aussi un spécialiste de la chose politique. Est-ce que quand même la fin de l'esprit Canal n'est pas aussi significative de problèmes politiques que nous rencontrons aujourd'hui ? Ou en tout cas, un miroir ?
Non,
c'est-à-dire que les choses se sont effondrées, les institutions se sont effondrées ?
Non, ce qu'on peut dire, moi, il me semble, c'est que l'effondrement, enfin, ou la fin de l'esprit Canal, comme les difficultés de libération, qui sont des éléments identitaires forts d'une génération qui a porté la gauche au pouvoir en 81, ça n'est certainement pas un hasard si la gauche aujourd'hui se retrouve dans la situation, j'allais dire, de désincarnation dans laquelle elle est, et que, de manière presque mimétique et concomitante, ce qui a été cette espèce de relais culturel dans une forme de miroir, dans l'imaginaire de cette gauche libertarienne, en fait, en gros, se trouve aussi en crise au même moment. C'est que je pense qu'il n'y a certainement pas de hasard.
Merci beaucoup, messieurs, madame, d'avoir accepté notre invitation. Avant le clin d'œil de Yacine Bouzard, je vous propose d'entendre un clin d'œil naturel, j'allais dire spontané. C'est une actionnaire de Vivendi qui s'adressait à Vincent Bolloré le jour de cette fameuse dernière Assemblée Générale.
Autre question, madame ?
Oui, bonjour Président. D'abord, je voulais vous dire merci pour l'assainissement de Canal Plus en clair, qui était devenu une succursale du Parti Socialiste, avec Apathy en premier secrétaire et les médias qui faisaient le buzz sans arrêt sur l'émission. Voilà, donc ça c'est quand même une bonne chose, parce que ça devenait très difficile à supporter. Sur un autre sujet, c'était la fameuse époque matraquage médiatique, le yacht de Monsieur Bolloré et les vacances de Nicolas Sarkozy. Je n'ai jamais compris pour quelle raison vous n'aviez pas réagi là-dessus, parce que après tout, il vaut mieux qu'un président fasse payer ses vacances par un ami que par le contribuable, quand on le voit de nombreuses fois. Il y a de nombreux élus qui se font payer leurs vacances, et c'est quand même un petit peu dommage, parce que c'est nous au final qui payons. Là, pour Monsieur Sarkozy, ça nous a pas franchement gênés, à part tous ceux qui n'avaient pas voté pour lui. Voilà.
Merci, madame. Alors, la réponse aux médias, très souvent, vous savez, c'est une perte d'énergie, et ça sert à rien quand les médias sont lentés, donc on va pas répondre sur tout, parce que sinon on y passerait notre journée.
Voilà, comme l'émission s'achève. Effectivement, merci Vincent Bolloré. On garde l'autre œil ouvert quand même pour le clin d'œil de Yacine Bouzard, où on va retrouver certains invités de France Culture cette semaine, avec par ordre d'apparition Najat Vallaud-Belkacem et François Hollande.
Je trouve qu'un responsable politique qui préside aux destinées d'un pays, d'une certaine façon, il a un peu un rôle équivalent à ce que peut avoir un père de famille ou une mère de famille à l'égard de ses enfants.
S'il te plaît, dis papa. Maman.
J'ai connu les mouvements altermondialistes, à l'époque tiers-mondistes.
Maman.
Dis-le, ou c'est papa qui boit ton biberon éveil. Papa.
Maman.
La France n'a pas le droit d'être petite, n'a pas le droit d'être mesquine, n'a pas le droit d'être crispée.
Maman.
Allez, dis papa.
Maman.
Oh. Aujourd'hui, je suis dans l'histoire.
Non, mais qui a fait ça?
Papa.
Je trouve qu'un responsable politique, d'une certaine façon, il a un peu un rôle équivalent à ce que peut avoir un père de famille ou une mère de famille à l'égard de ses enfants.
Papa.
Voilà, c'était le clin d'œil de Yacine Bouzard qui signe donc la fin de cette émission réalisée avec Vincent Abouchard, préparée avec Mathias Mégy, à la technique Pierrick Monsigny. Et vous pouvez maintenant reprendre une activité normale. Dans un instant, le journal de 9h, Anne Fauquemberg et puis réplique d'Alain Finkielkraut.
Il y a le désir de porter, on va dire, une partie de la contre-culture qui, sous Jacques Lang, sous ce moment-là historique, a besoin de s'institutionnaliser. Et ça n'est pas pour rien que beaucoup des animateurs de Canal+ vont être pris dans le vivier, à l'époque, de Actuel et Nova.
De Greff venait d'Antenne 2, c'était un ancien monteur. Pierre Lescure, pareil, c'est une grande partie du savoir-faire du service public et d'Europe 1. Un savoir-faire audiovisuel, un savoir-faire journalistique et une curiosité pour la culture américaine et la contre-culture américaine.
Pour être drôle, il faut être minoritaire. C'est Deleuze qui disait ça, l'humour c'est minoritaire. Et c'est ça le problème, c'est que Canal+, soudain c'est devenu, par un esprit, une situation dominante, gérée par des gens qui avaient fait HEC, etc. Ça avait complètement changé de nature.